La 47, Avtome Kalachnikova, modèle 1947, en russe, souvent connu sous le nom de Kalachnikov, est un fusil d'assaut créé en 1945, et fabriqué en 1947, par le soviétique Mikhail Kalachnikov. Cette arme est le premier modèle d'une famille. Son coût très faible, sa robustesse, sa fiabilité et sa grande facilité d'entretien le rendent extrêmement populaire, en particulier auprès des guérillas et des pays ayant peu de moyens budgétaires, pour équiper leur infanterie. C'est également une arme produite dans de nombreux pays dotés d'une industrie d'armement, particulièrement dans les anciens pays de la zone d'influence de l'Union soviétique. Entre 70 et 110 millions d'exemplaires furent construits et la production des plus récents modèles continue au XXIe siècle, ce qui fait du AK-47 le fusil le plus répandu dans le monde. De toutes les armes à feu existantes dans le monde, le Kalachnikov est le plus sûr au niveau de sa fiabilité. En effet, une arme de ce type ne s'enraye pas, dans l'eau, dans le sable, avec l'humidité, etc. C'est la raison pour laquelle les guérilleros et autres membres de groupes armés révolutionnaires en sont munis lors de leurs missions, déserts, forêts et autres endroits hostiles. Histoire, gestation et naissance. La naissance de cette arme légendaire est d'abord celle de sa munition, une cartouche de calibre 7,62 mm longue de 39 mm, dite 7,62 x 39. Qui s'inspire de la Mauser 7,92 mm dite Kurz, courte, dont un exemplaire soustrait aux troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale servit de modèle. La 47 est inspirée d'un fusil allemand, très peu diffusé et utilisé uniquement sur le front de l'est, le MP44, développé en 1942 et mis en service en 1943 sous le nom de Sturmgewehr 44 ou STG 44. Le fusil d'assaut était né, combinant de par son calibre et son concept général un nouveau futur standard des armes de guerre de petit calibre. La plupart des armées utilisaient des fusils au mieux semi-automatiques, comme le M1 Garand, mais plus généralement à verrou. Ces armes chambraient des cartouches longues, comme la 7,92 mm/Mauser, puissante et efficace à longue portée. Mais la faible cadence de tir, l'encombrement et le fort recul constituaient autant d'inconvénients, et les pistolets mitrailleurs, comme le MP40 allemand, étaient donc souvent préférés en combat rapproché, quoique leurs munitions d'armes de poing rendaient le tir peu efficace à plus de 100 mètres. Des études soviétiques montrèrent que même à faible distance une épaisse tenue d'hiver arrêtait parfois leurs balles. Riff. Nécessaire, l'emploi combiné du fusil et du pistolet mitrailleur contraigna par ailleurs à pourvoir l'infanterie en deux types de munitions d'armes d'épaule. Les militaires allemands eurent l'intuition que la munition du fusil de guerre, conçue pour tirer efficacement à près de 800 mètres, était trop puissante pour les distances réelles d'engagement, généralement inférieures à 400 mètres. Ils créèrent donc une nouvelle cartouche, en diminuant la charge propulsive, donc la longueur de l'étui de moitié, ainsi qu'une arme révolutionnaire pour l'utiliser, nommée Sturmgewehr 44. L'armée rouge disposa vite de quelques exemplaires, et apprécia cette approche au point de faire développer, par Elizarov et Semin, l'équivalent à partir de sa 7,62x54 Nagant. La cartouche 7,62x39, qui en résultat fut adoptée, en 1943, et les fabricants d'armes soviétiques, conçurent les armes correspondantes. Mikhail Kalachnikov, sergent dans une division blindée, commence à dessiner des armes, alors qu'il est à l'hôpital et en convalescence, après avoir été blessé au cours de la bataille de Briansk. Son premier modèle, créé en 1942, est un pistolet mitrailleur écarté au profit du PPS-43 de Soudarov. Sa carabine semi-automatique de 1945 échoue face à celle de Simonov, la SKS, qui entre en service en 1946. Il conçoit alors, entre 1945 et 1949, plusieurs modèles expérimentaux de fusils d'assaut jugés intéressants par les autorités soviétiques, vu qu'il quitte l'armée et est embauché à l'usine d'armement Izmash, d'Ingevsk. Bien qu'il ait examiné un Sturmgewehr 44 en 1946, Mikhail Kalachnikov nie fermement avoir copié les modèles allemands et italiens, ce que confirme la comparaison des armes. En dépit d'une certaine similitude générale, leurs principes de fonctionnement sont différents. Par contre, il semble qu'il se soit inspiré du M1 Garand et des armes de Browning lors de la conception de la culasse rotative et du chien. En 1949, l'armée soviétique adopte, sous la désignation de AK-47, une de ses études de 1947, en tant que fusil réglementaire dans l'infanterie motorisée. Une version accroche-pliante, destinée aux parachutistes et aux équipages de blindés, est aussi mise en service sous le nom de AK. L'arme, bien que satisfaisante, est constamment modernisée, surtout dans le but de simplifier sa production, encore compliquée. Après plusieurs modèles expérimentaux en 1950 et en 1951, une nouvelle version est adoptée par l'armée rouge en 1953. sa désignation reste AK-47, mais elle est souvent qualifiée version légère, car ne pèse plus que 3,8 kg chargé, au lieu de 4,3, grâce à l'emploi d'un fusil intégrant le verrou de culasse. Le premier modèle de poignée pistolet, constitué d'une armature métallique soudée, et un billot de demi-flasque en bois, est remplacé par un unique morceau de bois vissé. Les chargeurs auparavant lisses, sont allégés et voient leur flanc rigidifié, par l'adjonction de bandes métalliques de renfort, et une baïonnette apparaît. Cette version sera la plus produite des AK-47. Il en existe également une version accroche-pliable. Le Kalachnikov économique, l'ACM, l'AK-47 rencontre un succès important mais, même dans sa version de 1953, de nombreux défauts de jeunesse subsistent. La construction usinée de certains de ces éléments l'allège en augmente le temps de fabrication. Kalachnikov et son équipe continuent donc à tenter de l'améliorer et plusieurs modèles expérimentaux naîtront. Outre la simplification de la construction, les aménagements visent à réduire encore sa masse et à améliorer sa précision au tir automatique. En 1955, la construction de la carcasse par estampage et rivetage réapparaît, mais le bois massif des premières séries est remplacé par du contreplaqué de bouleau, léger et peu coûteux. Le mécanisme de détente est pourvu d'un retardateur pour interdire la percussion précoce avant verrouillage d'une cartouche. Par ailleurs, le cylindre de récupération des gaz est aussi amélioré et la hausse, auparavant graduée jusqu'à 800 mètres, est portée jusqu'à 1000. Les résultats sont spectaculaires, la masse de l'arme chutant, de 4,3 kg à 3,14, le coût et le temps de construction, sont aussi considérablement réduits. Une nouvelle baïonnette est conçue pour être articulée, sur son fourreau rigide, formant ainsi une pince destinée à couper les fils de fer barbelés. Le nouveau fusil est adopté par l'armée rouge, en 1959, sous le nom d'ACM, puis mis en service en 1961. La version avec crosse pliante, en métal embouti destinée aux équipages de blindés, aux parachutistes et aux fantassins des BNP, nommée ACM, porte la longueur de l'arme de 868 à 699 mm. Un RPK avec un chargeur de 75 coups, l'arrivée de l'ACM marque la naissance d'une nouvelle arme de la famille. Appelé Kalachnikov RPK, il s'agit d'une version lourde de l'ACM, destinée à remplacer le RPD, donc à fournir des tirs d'appui à l'échelon du groupe de combat. L'arme est pourvue d'un bipied repliable, d'un canon plus long, 591 mm contre 415, et plus épais, ce qui lui permet de tirer légèrement plus loin et plus longtemps. La carcasse est aussi renforcée, et la crosse est celle du RPD. Sa hausse est pourvue d'un système de déport latéral, et deux types de chargeurs, peuvent être utilisés à la place de ceux de l'ACM, l'un du même type que le standard, mais plus long contient 40 cartouches, l'autre est un tambour abritant 75 cartouches. Toutefois, aucun mode de changement rapide du canon n'est prévu et la cadence pratique reste donc limitée du fait de son échauffement. Comme pour la version normale, un modèle à crosse pliante, RPKS, est prévu. La mitrailleuse polyvalente, PK, ainsi que le fusil de précision SVD, né au début des années 1960, emploient le mécanisme de l'ACM, mais sont par ailleurs différentes, et tirent la cartouche longue de 7,62x54. En 1963, en une nouvelle refonte, l'ACM est équipé d'un compensateur de recul, un embout biseauté, qui contre en partie la tendance de l'arme à remonter lors du tir. La baïonnette est aussi modernisée, sa forme est retravaillée et son fourreau est dorénavant en matière plastique. Cette dernière remplacera définitivement le bois dans la construction de l'arme, en 1974, et sera le matériau de certains chargeurs. Les ACM peuvent être dotés de nombreux accessoires, par exemple le silencieux PBS et la lunette de tir de NISPU. L'ACM emploie un chargeur semi-circulaire de 100 coups, qui s'attache sur la fixation de baïonnette. Un lance-grenade adaptable sous le canon est aussi développé pour l'ACM, le 6,15 g, lançant des grenades de 40 mm. Le passage au petit calibre, l'AK-74, l'apparition du M16, avec sa munition rapide de 5,56x45, fait prendre conscience aux soviétiques que, si la 7,62x39 est une munition efficace et éprouvée, la trajectoire de sa balle assez lourde et moins rapide n'est pas rectiligne, sur la plus grande part de sa portée pratique, car elle chute dès 200 mètres, ce qui réduit sa précision. Elle est également plus grosse et plus lourde, ce qui est un handicap logistique, tant stratégiquement en demandant plus de ressources de production et de transport que tactiquement limitant le nombre de munitions qu'un soldat peut emmener. Des études vont mener à la création d'une nouvelle cartouche, la 5,45x39, légèrement moins puissante, mais à la vitesse équivalente à celle de la 5,56x45 autant. L'ACM sera adaptée, donnant naissance à l'AK-74, et à son dérivé à crosse pliante l'AK-74. AK-74U, une version raccourcie de l'AK-74. Bien que descendant directement de l'ACM, l'AK-74 présente de nombreuses différences. La plus apparente est la généralisation du plastique, pour la fabrication du chargeur, que le profil de la munition rend moins courbe. Autre changement extérieur d'importance, l'apparition d'un gros compensateur de recul au bout du canon et de deux excroissances entourant la hausse. Intérieurement, outre un nouveau canon, la taille de la culasse a été réduite à une extension rectangulaire placée à l'arrière du chariot transporteur, entraînant la culasse, isole la cartouche placée en haut du chargeur de la culasse en train de reculer. La fabrication de l'AK-74 vit progressivement s'imposer les matières plastiques ou la bakélite à la place du bois, mais il semble que sur les premiers modèles seule la poignée pistolet était en matière plastique, et par la suite les autres parties, à savoir la crosse et le garde-main, finirent par être réalisées dans divers matériaux synthétiques comme la fibre de verre renforcée de polyamide. L'AK-74 diffère énormément de son prédécesseur l'ACM car, outre les changements précédents, la traditionnelle crosse pliante en métal, qu'on basculait autour du corps, a cédé la place à un modèle évidé, ou squelette selon les fabrications, qu'on rabat sur le flanc droit ou gauche de l'arme selon les fabrications. Comme pour l'ACM, une version LOAD est aussi produite, le RPK-74, avec son avatar à crosse pliante le RPK-74, au canon LOAD long de 590 mm et à la hausse réglable en dérive et doté d'un compensateur de recul différent. L'arme est approvisionnée par un nouveau chargeur en plastique similaire à celui de l'AK-74, mais contenant 45 cartouches. En 1979, apparaît l'AK-74U-AXU, une version beaucoup plus courte, surtout destinée aux forces spéciales, aux équipages de blindés, extrêmement compacte car longue de 490 mm crosse repliée. L'AK-74U est l'un des plus petits fusils d'assaut raccourcis. Le canon est beaucoup plus court, avec 210 mm, et l'évent de prise de gaz a été rapproché de la chambre, ouvrant la culasse plutôt donc augmentant la cadence de tir. Ce canon ne permet toutefois pas un tir soutenu, réduit la précision, et implique une flamme et une détonation à la bouche importante, ce qui rend l'arme particulièrement inconfortable à tirer et plus facile à repérer pour l'ennemi. Modèle actuel, AK-10. Au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, l'armée rouge envisageait de remplacer la famille des fusils Kalachnikov par une arme nouvelle, le Nikonov en 94. Mais il semble que son coût, et sa complexité, contraignirent à le réserver aux unités d'élite. Une nouvelle version de l'AK-74, l'AK-74M, a été adoptée, en 1991, et devient le fusil, standard de l'armée russe. Ce dérivé est peu différent des premiers AK-74, mais sa crosse plastique est repliable sur le côté gauche, où se trouve un rail de montage de lunettes de visée. Sa finition est noire, tant au niveau des plastiques, que du métal traité par phosphétage. Pour l'exportation, la firme Izumash, issue de l'ancienne usine d'État numéro 100 d'Ingevsk, créa à partir de l'AK-74M une gamme de modèles utilisant les munitions les plus communes du marché, disponibles avec deux longueurs de canon, 415 et 314 mm. On trouve ainsi les AK-101 et 102 en 5,56x45 autant, les AK-103 et 104 en 7,62x39, et les AK-74M et AK-105 en 5,45x39. Deux nouvelles armes complètent l'ensemble adopté, il y a plus de 50 ans, l'AK-107 et l'AK-108, respectivement 5,45 et 5,56 mm, qui disposent d'un deuxième piston déplaçant une masse LOD destinée à compenser le déplacement de masse vers l'arrière qui, malgré les compensateurs, a toujours causé une élévation du canon durant le tir jugé trop accusé. Les dérivés étrangers. Le premier pays à produire l'AK-47 en dehors de l'Union soviétique fut la Chine populaire, qui acquit la licence de fabrication en 1956, en même temps que celle de la carabine SKS. L'arme, désignée fusil type 56, fut déclinée en deux versions, une à crosse fixe en bois et l'autre avec crosse métallique se repliant sous l'arme comme sur l'AK type 56-1. La principale différence, avec le modèle d'AK-47 soviétique modifié en 1953, est la présence d'une baïonnette fixe repliable sous l'arme. Le mélange de caractéristiques du fusil type 56, avec celle de la copie de la SKS donnait naissance au fusil type 63-68e, qui est à l'origine des fusils actuels de l'armée chinoise. L'AK modèle 1959, devint le type 56,5, qui se vit également doté d'une crosse spécifique, repliable latéralement et non plus sous l'arme. Une version pulpe du type 56 fut produite au début des années 1980, sous le nom de type 86. À la même époque, la Finlande, ayant de bonnes relations avec l'Union soviétique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, décide elle aussi de prendre une licence de production de l'AK-47. la société Valmet en dérive un modèle local, le RK62. Dans les années 1970, apparaît une nouvelle version du fusil, le Valmet RK.76, dont la carcasse est maintenant fabriquée par estampage, réduisant considérablement sa masse, tandis que le garde-main est de nouveau modifié et enveloppe de nouveau le cylindre de gaz. Pas moins de 4 modèles de crosse sont prévus, W pour une crosse en bois fixe, P pour une en plastique fixe, T pour une crosse tubulaire, fixe et TP pour la tubulaire pliante. Les armes sont toujours produites en deux calibres 7,62x39 et 5,56x45. Les plus récentes évolutions sont le Sako RK.95TP, la ferme Sako ayant absorbé Valmet, qui adopte la crosse pliante squelette issue du Galil israélien, et le Vulpu Valmet 82. Les armes produites par Valmet sont généralement considérées comme les meilleurs modèles dérivés de la K47, car bénéficient d'un usinage et d'une finition supérieure à celle de leurs concurrentes. Après la guerre des six jours, l'armée israélienne confia à Israël Galili le soin de gérer la conception d'une arme devant remplacer ses falaisies. Ainsi naquit le Galil, un dérivé du Valmet RK.62 réalisé avec l'appui des Finlandais, qui gagna la compétition en 1973. Les principales améliorations sont l'ajout d'une sécurité supplémentaire sur la poignée pistolet, une crosse squelette inspirée de celle du Fal et un embouchage flamme sur le canon permettant également de lancer des grenades. Le Galil est décliné en plusieurs versions, art et armes, avec un bipied amovible, qui sert aussi de coupe-fil et de décapsuleur, ainsi qu'une poignée de transport. Les deux versions sont disponibles, en 7,62 autant, et 5,56 autant. Les Galil Sarema, sont des versions courtes en 5,56, avec des canons de 332 et 195 mm. Un autre dérivé de l'arme, en 7,62, est le fusil de précision Galatz-Nautiran, commode semi-automatique. Même si le Galil est une arme très réussie, la fourniture par les États-Unis de nombreux fusils M16 et K15 à très bas prix a en pratique limité son statut de fusil standard de l'armée israélienne. Il a toutefois rencontré le succès à l'export, donnant lieu à des productions sous licence en Afrique du Sud sous les noms de Vector R4, Galil AR, Vector R5, Galil SAR et Vector R6, Galil MAR, ainsi qu'en Croatie où une version pourvue d'une lunette de visée grossissant 1,5x et d'une poignée de transport est commercialisée sous le nom de AA-95 par RH Alan. Vector propose aussi une arme futuriste dérivée de son R4, le CR-21, de configuration Vulpu et entièrement un billet de polymère à la lunette de visée rétroéclairée. Le Vepr ukrainien est une autre version Vulpu récente dérivée de l'AK-74, mais elle ne semble pas avoir encore été fournie à l'armée ukrainienne et semble peu pratique car conserve le sélecteur de tir des AK qui se trouve derrière la poignée pistolet. L'Inde produit sa propre version de l'AK-74 depuis 1988, sous la désignation de SA, chambré en 5,56 autant, et au sélecteur de tir placé sur la gauche, pour être manœuvré par le pouce droit. Cette arme dont il existe une version fusil mitrailleur, emprunte également plusieurs éléments au Fal. Les pays membres du pacte de Varsovie, et anciennement alliés à l'URSS produisiront de nombreux AK, plus ou moins modifiés. La Bulgarie produit des copies d'AK-47 du modèle 1953 et des AKM, réputés pour leur solidité, les AK, AK, AKM et AKM. La Roumanie produisit sous licence l'AK-47, les un dérivé de l'AKM, réputé fragile, l'un et sa version acrosse pliante 1, qui se caractérisait par une poignée pistolet au garde-main. La Yougoslavie produisait le Zastava M70, qui se caractérise par ses capacités de tir de grenade à partir du canon, grâce à un viseur auxiliaire. Cuba produit une copie conforme de l'AKM, et la Corée du Nord une copie de l'AK-47 modèle 1953 appelé modèle 58, et une copie de l'AKM modèle 1959 appelé type 68. Les types nord-coréens 58 et 68 ont une finition grossière. La République démocratique allemande produisit ses propres AKM et AKM en utilisant au maximum le plastique, sous le nom de pi-kilomètre. La Hongrie, après avoir produit des AK-47 sous licence AK-55. Construit deux versions originales de l'AKM, l'AM 65 disponible, avec crosse fixe pliante, dont le garde-main était remplacé par une poignée pistolet, et l'AKM 63, un AKM à crosse pliante et chargeur de 5 coups pour tirer des grenades anti-char ou anti-personnel. L'Égypte produit le Misr, une copie quasi parfaite de l'AKM. Le Misr version para reçoit une crosse repliable à droite identique au modèle allemand. Enfin, Cuba produisit une version locale de l'AKM. Elle est aussi produite en Algérie qui l'exporte en Afrique et autres pays du tiers-monde. Utilisateurs occidentaux, asterisque États-Unis, Seal/Special Force durant la guerre du Vietnam. Asterisk Israël Israël. Asterisk Royaume-Uni Royaume-Uni slash États-Unis États-Unis slash Afrique du Sud société militaire privée. Représentation dans le monde. Cette arme est largement connue, et représentée dans la culture générale, du cinéma à la sculpture, en passant la philatélie. L'URSS l'a frappé sur une pièce de monnaie, et les drapeaux du Mozambique, comme celui du Timor oriental la représentent. Caractéristiques et descriptions. La cadence de son tir automatique est de 600 coups par minute. Certains AK-47 sont plus précis que d'autres. Les plus anciens modèles, les modèles bulgares, les modèles yougoslaves et les plus récents modèles soviétiques ont une précision de 2 minutes d'arc, ce qui est un standard minimum pour toute arme moderne. Les autres modèles ont une précision d'environ 6 minutes d'arc seulement. Tout d'abord produit par l'usine d'armement soviétique IZ, il devint populaire pendant la guerre froide. La 47 est plus léger et compact que les fusils utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale, sa portée est plus réduite et il peut tirer par rafale. Il fut le premier fusil d'assaut massivement produit. La 47 est peu coûteux à fabriquer, plutôt léger et très simple à entretenir, même sur le champ de bataille. Sa réputation de robustesse et de fiabilité n'est plus à faire. Il peut encore tirer après avoir été plongé dans l'eau ou le sable. Fonctionnement. Toutes les armes de la famille Kalachnikov fonctionnent par un emprunt de gaz assuré par un aimant situé environ aux deux tiers du canon. Les gaz prélevés lors d'un tir poussent un piston solidaire du porte-culasse. Celui-ci recule en entraînant la culasse, ce qui imprime à cette dernière une rotation la dégageant des tenons, qui la lia au canon, afin de les verrouiller avant la percussion. L'ensemble recule en comprimant le ressort récupérateur, en épuisant l'énergie du recul. Le ressort récupérateur ramène alors toutes les pièces vers l'avant. La culasse prélève une nouvelle munition entre les lèvres du chargeur, et l'introduit dans la chambre en l'imenant, sur la rampe d'alimentation, puis elle effectue une nouvelle rotation, pour se verrouiller à la chambre, et un nouveau tir peut alors se produire, selon la position de la détente, et du sélecteur de tir. Ces deux derniers composants, contrôlent l'activité du chien, qui vient frapper le percuteur, pour amorcer la cartouche présente dans la chambre. La détente n'a que deux positions, enfoncée ou relevée. La sélection du mode de tir se fait au niveau du levier latéral, qui lui a trois positions. Asterisk sécurité, levier en position haute. Le chien est alors verrouillé, le tir est impossible. Asterisk coup par coup, levier en position basse. Pour le tir semi-automatique. Asterisk automatique, levier en position intermédiaire. Le chien devient libre tant que la détente est enfoncée. Après le tir de la dernière cartouche d'un chargeur, la culasse d'un AK-47 classique n'est pas bloquée en position arrière, ce qui contraint à réarmer après avoir mis en place un chargeur. Démontage et entretien. Le démontage de l'arme est facile. Engager la sûreté, sélecteur de tir en position haute. Déposer le chargeur, s'assurer que l'arme ne contient aucune munition, puis conserver le canon dans une direction non dangereuse. À l'arrière du corps, au-dessus de la base de la crosse, la tige du ressort récupérateur fait saillie à travers le couvercle, il suffit de la pousser un peu pour libérer ce dernier. Une fois celui-ci retiré, l'ensemble du mécanisme apparaît. La deuxième étape consiste de nouveau à pousser la tige du ressort récupérateur vers l'avant, puis de la soulever légèrement afin d'extraire le mécanisme de l'arme. On peut alors en séparer les divers éléments, à savoir, le ressort récupérateur et sa tige, le chariot porte-culasse et le piston à gaz. La culasse peut être désolidarisée du transporteur, par une simple rotation, ce qui libère le percuteur. On peut ensuite séparer la carcasse de l'arme en deux parties, la supérieure contenant le cylindre gaz. À ce stade, il ne reste plus que le mécanisme du chien et le canon sur l'arme, ce qui permet déjà un entretien correct. Le cylindre et la chambre, ainsi que le piston à gaz, et l'intérieur du cylindre, sont la plupart du temps chromés afin de résister à la corrosion et à l'usure. Il est toutefois conseillé de nettoyer l'ensemble, après chaque utilisation, d'autant que la plupart des munitions militaires, en particulier soviétiques, chinoises et d'Europe de l'Est, utilisent des amorces corrosives. Accessoires. La traditionnelle hausse, rabattable en métal, est libérée en appuyant sur deux boutons à l'arrière du fusil. Elle est calée sur 50 mètres, distance minimale pour tirer tout en visant, car en deçà la visée est instinctive. Pour les combats de nuit, certains modèles russes ont un système rabattable de visée laser, également calé sur 50 mètres. Ce type de visée est le point le plus critiqué de l'AK-47, car il est moins pratique et moins précis que la plupart des autres systèmes, comme les lunettes de visée, mais sur les fusils d'assaut une grande précision n'est en pratique pas une qualité fondamentale. Une bretelle est fournie pour les tirs de précision. Enroulée autour de l'avant-bras gauche, elle permet de maintenir le fusil plaqué et de gagner ainsi en stabilité. Le chargeur se libère manuellement, il est situé à l'avant du pontet qui entoure la queue de détente, qui est très large, permettant le port de gants. La crosse de certains modèles destinés aux parachutistes et aux troupes mécanisées ou blindées est évidée afin d'écrocher facilement l'arme.